Franck Tapiro, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes publicitaire, PDG de l'agence Hémisphère Droit, vous avez signé les campagnes Virgin Radio, Bic Egg Cantona, plein d'autres. En 88, vous occupiez de la campagne de François Mitterrand, votre légende prétend que c'est vous qui avez inventé le slogan « Tonton, laisse pas béton ».
Absolument.
Vraiment ?
Ah, c'est
pas Renault ou c'est vous ou ce qu'il a dit à Renault ?
Non, Renault a briefé Jacques Séguéla le matin, l'après-midi il est venu, j'ai proposé ça, mais vraiment comme une blague, j'étais tout jeune à l'époque, hein. J'ai proposé ça comme une blague parce qu'il avait dit « laisse béton » dans une chanson très connue, comme tout le monde parlait de François Mitterrand comme « tonton », j'ai dit « bah voilà, on va faire un raccourci, tonton laisse pas béton », mais j'ai dit ça en rigolant, tout le monde a rigolé, et l'après-midi il a été voir le journal Le Monde, il a dit « voilà, on va faire ça ».
En 2007, ouais. C'est vous qui étiez l'auteur du slogan de la campagne de Sarkozy « Ensemble, tout devient possible ». Mm-hmm. C'est dans les livres d'histoire aussi.
C'est totalement possible et ça c'est vrai.
Alors vous ne travaillez plus avec Nicolas Sarkozy, ni avec le Parti Socialiste, mais vous n'avez pas quitté la sphère politique pour autant, puisque vous êtes le cofondateur, en plus d'Hémisphère Droit, de Datacalab, qui est un laboratoire de conseil en neuromarketing. D'abord, c'est quoi le neuromarketing ?
Alors le neuromarketing utilise des outils des neurosciences, vous savez, les neurosciences qui s'intéressent au cerveau, à la façon dont on a de réfléchir, de penser et surtout de ressentir. Et au moment d'un choix, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le choix n'est qu'émotion. Le choix n'est qu'une affaire d'émotion.
On pourrait penser que la neuroscience sont des fadaises, une lubie, un nouvel outil marketing qui sert à pas grand-chose, sauf que c'est la neuroscience qui, contrairement à tous les instituts de sondage, aux États-Unis, avait prédit la victoire de Trump. Comment ont-ils vu ça ?
En août 2015, la société Emotion aux États-Unis a travaillé pour Fox News avec un panel et puis ils ont projeté des images de Trump pendant les primaires. Ce qui est incroyable, c'est que ces personnes-là disaient avant qu'elles n'aimaient pas Trump, que Trump leur faisait peur, que Trump les effrayait. Et pourtant, ils ont mesuré leurs émotions, ils ont vu que celui qui dégageait le plus d'émotions, à la fois négatives et positives, était Trump. C'est lui qui clivait énormément. Mais donc on a vu dès le début, moi quand ils m'ont montré leur slide, j'ai dit mais c'est quand même incroyable. Dès qu'il y a un clivage émotionnel, en général, il y a un fort ancrage mémoriel, on se souvient de quelqu'un qui clive, on se rappelle de Sarkozy, on se rappelle de d'autres personnages politiques très forts, et quand on clive, on crée de la mémoire, et quand on crée de la mémoire, ben quand vous comparez cette personne-là par rapport aux autres, à un moment, eh ben il a un impact supérieur aux autres. Donc, Donald Trump avait un impact mémoriel et émotionnel supérieur à tous les autres candidats.
Vous avez suivi avec Datacalab le débat TF1 avec les 5 participants, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, 5 participants, 30 cobayes, expliquez le dispositif.
30 personnes représentatives des Français, Paris, province, hommes, femmes, droite, gauche, extrême et abstentionniste, face à un écran, devant le débat. Et pendant ce débat, ils sont filmés par une caméra avec un logiciel de facial coding, donc qui repère les expressions du visage et qui arrive à analyser en temps réel s'il s'agit de la joie, de la peur, de rejet, de dégoût, d'adhésion ou, pourquoi pas, de crainte. Et on l'a vu que certains candidats provoquaient toutes sortes d'émotions différentes.
Alors, quel résultat, avec un S à la fin ?
Les résultats sont assez simples. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte au suffrage émotionnel global de l'ensemble du débat, parce que c'est lui qui a provoqué le plus d'émotions, étrangement positives. Il n'y a pas eu que des émotions négatives, beaucoup d'émotions positives pendant toute la durée du débat. Et c'est lui qui l'emporte devant Marine Le Pen. En trois arrive Emmanuel Macron.
Concrètement, qu'est-ce que les candidats ont pu faire de votre étude ? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces chiffres ?
Déjà de ces chiffres, de voir à quel point provoquer des émotions était positif pour créer un ancrage mémoriel et surtout créer de l'impact, cliver. Vous savez, si vous clivez pas, vous n'avez aucune chance d'être élu, premièrement. Deuxièmement, voir les thématiques qui ont suscité le plus ou le moins d'émotions. Et c'est vrai qu'on a tous été déçus de voir, par exemple, que l'Europe avait suscité très peu de temps et très peu d'émotions, qu'en revanche, la place de la France dans le monde, l'immigration, le travail avaient provoqué beaucoup d'émotions, mais numéro un des émotions, et ça c'est quand même dramatique, ce sont les affaires. Les affaires ont été le sujet et la thématique qui a provoqué le plus d'émotions. Et alors qu'on pourrait dire, c'est ce qui a le moins politique, et pourtant, ça intéresse les gens, on voit que ça a une influence, donc il ne faut pas les sous-estimer.
Et alors ce qui m'a vraiment frappé, puisque vous en parlez, ça a duré 3h30 et les affaires ont été évoquées pendant 4-5 minutes seulement. Comment est-ce possible ?
En fait, pendant 4-5 minutes seulement par rapport à 3h30 du débat, ça montre à quel point les gens attendaient qu'on leur parle de ces affaires. Ça veut dire qu'ils étaient en hyper-émotion et en réception absolue. Ils attendaient cela, c'est pour ça qu'on a eu des pics aussi forts.
Franck Tapiro avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Franck Tapiro avec nous, fondateur de l'entreprise, la société, la start-up Datacalab, qui étudie les émotions en matière de politique, mais pas seulement, et aussi fondateur et PDG de l'agence Hémisphère Droit. Elle s'appelle Hémisphère Droit, pour quelle raison votre agence ?
Parce que l'hémisphère droit est la partie du cerveau la plus créative et la plus imaginatrice. C'est celle qui voilà, qui pousse les gens à sortir du cadre en permanence et à sortir des sentiers battus.
C'est facile à mémoriser, c'est l'inverse de la politique. L'hémisphère gauche est la rigueur.
C'est la rigueur irrationnelle.
En 88, vous occupiez de la campagne de François Mitterrand, on l'a dit, c'est vous qui aviez inventé le fameux slogan « Tonton laisse pas béton ». En 2007, vous étiez l'auteur du slogan de campagne Nicolas Sarkozy « Ensemble, tout devient possible ». Comment avez-vous jugé la communication de François Fillon après l'affaire Pénélope ?
La communication de François Fillon avait été ratée dès le premier soir. Parce qu'au lieu de se battre sur le côté légal de cet emploi, qui, fictif ou non, c'était pas le sujet de dire que c'était légal. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des Français avaient commencé à juger François Fillon sur le côté inacceptable. Et en fait, au lieu de parler à ses juges possibles, en prônant le fait que cet emploi était réel et légal, il fallait qu'il parle à ses juges, c'est-à-dire aux citoyens qui allaient voter pour lui, à l'ensemble des Français qui l'attendaient sur le fait que cet emploi, même s'il était réel, est totalement inacceptable parce que les Français, eux, n'ont pas la chance d'avoir un parent ou un proche ministre qui peut leur donner un emploi. Donc d'abord, la première chose, c'est créer un climat de confiance qui fait que la personne qui est aidée, qui est donc conseillée, prend d'abord un vrai conseil et puis décide vraiment de façon conjointe telle ou telle ou telle stratégie. Mais quand on a quelqu'un qui est conseillé par 1, 2, 3 ou 4 ou 5 personnes et qui finalement est un franc-tireur comme un pilote de Formule 1 dans son cockpit, eh ben on peut imaginer qu'il s'en va dans le décor.
Vous avez connu la communication de crise ou Franck Tapiro ?
Oh que oui.
Ah oui, c'était, moi je me rappelle de l'affaire Ikea.
Ah bah oui,
Trois dirigeants mis en examen pour espionnage, ça plombe l'image du groupe. Comment avez-vous travaillé ?
Vous savez, quand il y a un cyclone, il faut toujours aller au cœur du cyclone, parce que d'abord, c'est là où c'est le plus calme. Donc, encore une fois, si vous évitez les problèmes, ils vous arrivent encore plus dans la figure. Et je dis à chaque fois, dans une communication de crise, il faut communiquer, sinon c'est la crise qui communique pour vous. Donc, il faut être offensif, il faut être calme, serein, déterminé. Et quand vous avez une crise, vous savez, il y a un début, il y a une fin de crise. Mmh. Et pour cela, il faut s'attacher, comme avec un homme politique, à ses fondamentaux. Vous prenez les fondamentaux de la marque et vous essayez d'en faire une prise d'aïkido. Parce que la crise, c'est un gros coup, mais quand vous la fuyez, elle continue à vous taper dessus. Et quand vous la prenez de face, il suffit d'une bonne prise d'aïkido, puis vous rebondissez. Donc nous, on a pris des valeurs de la marque, qui étaient cette énergie positive magnifique, cette sympathie, ce fait qu'elle s'adresse à tous. Et quand on a créé Newt, qui voulait dire en suédois « enjoy », hein, ça voulait dire « kiffer, s'éclater, profiter », et ben c'était une parade finalement à toutes les attaques négatives qu'il pouvait y avoir sur Ikea.
Oh dis donc, c'est l'école Chirac, j'y pense à l'instant. Quand il était embêté par les affaires, il avait créé Pchit. Et là, vous avez fait Newt, un mot qui veut rien dire, que personne ne connaît et qui fait qu'on l'utilise et qu'on oublie les autres.
Mais la différence, c'est que Newt, lui, n'a pas fait Pchit.
Vous aviez aussi en charge la communication de l'équipe de France de foot. C'était entre 2008 et 2010. Oui. On se souvient de l'épisode ridicule des joueurs qui ne veulent pas descendre du bus en Afrique du Sud pour s'entraîner. C'était Anaïs Nin. À l'époque, vous vouliez inscrire dans la charte de l'équipe de France le fait que les joueurs chantent la Marseillaise. Ça en est où ? Vous avez été suivi là-dessus ?
Non, ça s'est très mal passé. En fait, c'est peut-être ma pire expérience de ma vie professionnelle.
Ah bon ?
Mais oui, pourquoi ? Parce que d'abord, je suis un fan absolu de football. Je suis joueur, ancien président de club, etc. Et je suis un fan de l'équipe de France. Et quand j'ai vu que cette équipe de France avait été kidnappée par quelques personnes qui pensaient qu'en fait, elle leur appartenait, cette équipe, alors qu'elle n'appartient ni à personne, elle n'appartient pas aux joueurs, elle appartient aux Français. Ce jour-là, je me suis vraiment désolidarisé d'eux. Je me suis battu pendant 2 ans pour essayer qu'ils communiquent un peu mieux. Mais j'avais là-bas des gens qui m'ont interdit en fait de communiquer. Donc c'est la première fois que j'étais payé pour ne pas communiquer. J'ai écrit 2 courriers, c'était totalement confidentiel, mais des courriers recommandés parce qu'ils ne me répondaient pas, bien avant la Coupe du Monde. Et au lendemain d'Anaïs Nin, j'ai publié ces courriers dans l'équipe, puisqu'il fallait que les gens sachent qu'à l'intérieur quand même, et leurs partenaires s'affairaient justement autour de l'équipe de France pour essayer d'éviter le drame. Et le drame, ça a été Anaïs Nin, mais le drame aurait pu être évité depuis bien longtemps s'ils nous avaient écoutés et s'ils avaient enfin eu une communication transparente vis-à-vis des Français. Et là, en fait, cette équipe, ils l'ont suicidée, ils l'ont envoyée dans le mur.
Franck Tapiro avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Franck Tapiro avec nous, fondateur d'Hémisphère Droit et d'une société spécialiste dans le neuromarketing dont le nom est difficile à prononcer, elle s'appelle
Gattaca Lab.
Pourquoi vous avez trouvé un nom aussi compliqué ?
Vous connaissez le magnifique film Bienvenue à Gattaca ?
Ah bah oui.
Voilà. Alors, j'ai fait Gattaca parce que c'était des data émotionnelles. Et puis j'ai rajouté Lab derrière parce que il fallait qu'on ait une adresse qui soit disponible sur Internet. C'est la vraie histoire. Mais c'est Bienvenue à Gattaca à la base.
Vous êtes le fondateur de l'agence Hémisphère Droit. Est-il vrai que vous avez déposé la marque Hémisphère Gauche ?
Bien entendu, Hémisphère Gauche était une agence de mon groupe il y a quelques années qui s'occupait de marketing opérationnel, marketing direct, marketing service. Mais comme c'était pas assez créatif, on a tout fondu sous Hémisphère Droit.
Mais vous avez déposé tous les noms.
Oui.
Hémisphère du milieu, Hémisphère central.
Hémisphère centre, Hémisphère droit, Hémisphère centre, on sait jamais. Ça peut peut-être marcher demain.
Est-il vrai que quand vous aviez 19 ans, vous étiez en école de commerce, vous avez inventé une combine pour faire engager dans l'agence de Jacques Séguéla ?
En fait, j'ai créé la première agence de pub étudiante à l'ISG. Et si vous connaissez le nom, là, vous allez halluciner. Elle s'appelait Periscope. C'est moi qui ai inventé Periscope en 86,
ah oui,
oui. Mais malheureusement, je n'ai pas gardé la marque, sinon je ne serais peut-être pas devant vous. Je serais peut-être dans mon avion.
Bien sûr que non.
Aujourd'hui.
Mais bien sûr que non, puisque les types de Periscope auraient pris un autre nom.
Alors, non, bien sûr.
Vous avez travaillé 12 ans avec Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy était un ami de plus de 20 ans.
Est-il vrai que vous ne vous êtes jamais fait payer ?
C'est vrai, c'est absolument vrai. C'était mon choix, à la fois d'ami et de militant. Il nous a payé uniquement sur la campagne de l'UMP, qui était donc Imaginons la France d'après. Enfin, c'était plutôt un remboursement de frais techniques. Si je le regrette aujourd'hui, peut-être un petit peu.
Parce à que cause je pense de Big Malion ?
Pas du tout.
Vous seriez très riche ?
Oh ben non.
Qu'est-ce
non,
que vous avez pensé de l'affaire Big Malion ?
Je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que c'est encore en cours. Je trouve ça assez hallucinant. Non, mais ce qui m'énerve un petit peu, c'est de voir que certaines personnes font comme si elles ne connaissaient pas Big Malion alors que tout le monde connaissait Big Malion.
À certaines personnes, il y a même Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il découvrait ce nom.
Oui, ben ça, je ne ferai pas de commentaire. Ça n'engage que lui. Moi, je sais que je connaissais Big Malion. Voilà, c'était les copains de tout le monde. Tout le monde les aimait bien. Donc, c'est facile maintenant de leur tirer dessus.
Est-il vrai que le ralliement de Doc Gynéco, on se souvient,
ah oui,
quand il avait soutenu Nicolas Sarkozy à l'UMP, avait été obtenu en contrepartie d'une pub où il était l'égérie de la marque Virgin Mobile ?
Alors ça, c'est parmi les grands bidonnages de la campagne. Bien entendu que ça n'avait absolument rien à voir. Doc Gynéco soutenait Nicolas Sarkozy, c'était un très bon copain à moi. Voilà, et puis ça arrivait pratiquement au même moment. On devait faire une pub de lancement de Virgin Mobile. Je lui en ai parlé et il a dit « Ok, c'est super, ça me fait marrer ». Il n'y avait absolument aucun lien entre les deux. C'est absolument surréaliste, mais ça nous a fait vraiment marrer parce que, à la limite, le buzz nous a aidés finalement dans cette campagne-là, mais ce n'était pas vrai, bien entendu.
Avant vous, c'était le publicitaire Christophe Lambert qui était chargé de la communication dans le dispositif de Nicolas Sarkozy, avant la présidentielle de 2007. Est-il vrai qu'il avait été remercié, en tout cas exclu du cercle, car c'est lui qui a présenté Richard Attias à Cécilia Sarkozy ?
Alors d'abord, c'est vrai, c'est pas vrai du tout, puisque Richard Attias et Cécilia Sarkozy se connaissaient depuis des années. C'est lui qui les avait peut-être reconnectés, mais involontairement, enfin il n'était pas.
C'est Le Monde qui écrit ça, en août 2006.
Oui, mais vous savez, tous les journaux aussi formidables que Le Monde ont écrit beaucoup de choses, et surtout n'importe quoi. C'est trop facile de trouver des fautes. En plus, bon, Christophe, j'y pense parce que malheureusement, il est décédé il y a quelques mois. Voilà, c'est bien dommage. À titre posthume, je tiens quand même à lui rendre hommage là-dessus. Il n'a pas fait toutes les horreurs qu'on lui a mis sur le dos.
Est-il vrai que vous fabriquez un t-shirt à slogan personnalisé pour la moindre fête de famille ?
C'est totalement vrai, mais c'est avec mon frère Yankel qui avait créé la marque Anti-Sèche dans les années, début des années 90, avec les Anti-Sèches du bac sur les t-shirts. Et c'est vrai que, bon, on est des malades de t-shirts, mais je crois que vous aimez aussi beaucoup les t-shirts.
Non, mais je ne sais pas ça, mais moi je ne fais pas un t-shirt à chaque fois qu'il y a une fête.
Mais nous, on aime bien. C'est une façon de communiquer. D'abord, le t-shirt est un média, c'est un support très créatif. On peut se permettre des choses incroyables. J'ai une vraie collection. D'ailleurs, ce serait bien qu'un jour on expose nos collections de t-shirts respectives.
Est-il vrai que vous avez deux loisirs ? C'est VSD qui dit ça, j'ai adoré. Il a deux loisirs, le piano et le marathon.
Oui, c'est vrai. Bon, le piano, c'est surtout la musique. Moi, je suis
non, je dis que ça n'allait pas très bien ensemble.
C'est pas vrai, parce que quand on écoute un marathon, je peux vous dire que vous êtes dans une phase descendante. Ça fait du bien d'écouter un peu de musique pour vous rebooster dans les périodes les plus dures.
Marathon, vous le faites toujours ?
Marathon, je ne le fais plus. Je suis passé au petit triathlon, triathlon olympique.
C'était quoi votre temps en marathon ?
J'ai fait 3h53 au marathon de New York et à Paris. J'ai fait le même temps.
Merci beaucoup, Franck Tapiro, d'être venu nous voir.
Merci à vous, Philippe.